Bonsoir à tous, vous êtes sur Écoforum. Il est mercredi 4 décembre, il est 19h02 et on va avoir une émission forte. Vous pouvez toujours nous contacter comme d'habitude pour poser des questions au 04 91 08 28 10 08 28 10. Alors nous sommes avec le créateur de l'émission, Victor Hugo Espinoza, maître de la cérémonie, qui sera là pendant toute la première demi-heure pour parler de l'écologie. Et bien sûr, nos deux invités les plus importants. Nous sommes avec Hakimia Abakar. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bien sûr, Stéphane Ribeiro, les représentants de Debout Marseille sur le 15e et 16e.
Bonsoir.
Alors, comment vous avez découvert Debout Marseille? Et comment décrire ce parti?
Alors, c'est finalement l'histoire liée à un engagement citoyen, dans un premier temps, et puis l'opportunité d'accompagner une réflexion globale sur un projet, on va dire, une vision de Marseille et de sa métropole, très axée sur les problématiques écologiques.
Pas évident dans ces quartiers-là. Est-ce que c'est vraiment leur première priorité ?
Alors, leurs premières priorités, elles sont forcément liées à toutes les problématiques, on va dire, quotidiennes, que ce soit l'accès au travail, à la santé, à l'éducation, à la culture. Enfin, ça prendrait beaucoup de temps à les lister, parce que Dieu sait qu'à Marseille, on est quand même en retard, et un gros retard sur beaucoup de sujets. Mais en tout cas, toutes ces problématiques-là, elles sont traitées à travers toutes les valeurs que véhicule l'écologie et l'engagement citoyen. Et c'est si, en fait, c'est ce qui fait la force de ce mouvement. Et c'est une des raisons pour lesquelles je les rejoins.
Et toi, Kimia, pourquoi as-tu rentré dans ce mouvement écologique?
Alors,
tu es toute jeune, hein, 20 ans.
J'ai 20 ans, oui.
Incroyable.
Pour ma part, d'abord, il faut savoir que je suis issue des quartiers nord de Marseille. Plus précisément la Castellane. Et voilà, la situation, elle est urgente. Les problématiques, elles ne cessent de, voilà, d'empirer depuis au moins les 10 dernières années. C'est ce que j'ai remarqué. Et j'estime que Debout Marseille, dans sa conception, s'associe intégralement aux besoins des citoyens, des habitants, de la ville de Marseille, mais particulièrement dans le secteur du 15e et du 16e arrondissement. On ne peut pas ignorer aujourd'hui voilà, l'importance de la question de la santé publique, de l'insalubrité, de l'emploi, et toutes ces choses-là, parce que voilà, ça perdure depuis des années, donc on connaît la chanson, c'est toujours la même. Dans les quartiers, on ne peut pas l'ignorer, que c'est important, et c'est pour ça que j'avais une proposition de rejoindre d'autres secteurs ou pour avoir une meilleure place, mais je ne les ai pas acceptées parce que mon quartier m'appelle, mon secteur m'appelle, et aujourd'hui je suis là pour répondre et j'espère que je pourrai être élue pour faire de même demain.
Ouais, c'est tout à fait légitime de représenter son quartier. Il y en a tellement peu. Finalement, dans la liste, il y en a combien qui viennent du 15e, 16e ?
Alors, je ne pourrais pas préciser le nombre exact, mais
on est pratiquement tous
du secteur.
Même si certains ont fait un passage dans ce secteur-là. Moi, par exemple, je ne me définis pas par rapport au 15e, 16e. Même si j'ai passé une petite partie de ma vie, que j'ai été scolarisé là-bas, moi, ce qui me définit, c'est mon parcours. C'est mon parcours, ce que je suis aujourd'hui, mon engagement. Ce n'est pas mon appartement au quartier. Voilà, on connaît très bien les problématiques aujourd'hui liées à une adresse sur un CV, par exemple, et tous les préjugés que ça peut, on va dire, porter. Donc je ne me définis pas par rapport à ça. Je me définis surtout par rapport à celui que je suis aujourd'hui. Et si je peux donner envie à tous ces jeunes des quartiers de faire la même chose, d'avoir envie de passer à autre chose, ça sera déjà, on va dire, une petite pierre à la construction de l'édifice.
Et de réussir sa vie professionnelle et de surtout s'engager en tant que citoyen.
Voilà, donner du sens à sa vie surtout.
Là, vous trouvez tout votre sens.
Bien sûr, et encore plus qu'avant. Voilà, j'ai trouvé mon sens dans mon engagement, dans la voie que j'ai choisie par rapport à mes études.
En tant qu'architecte.
En tant qu'architecte et urbaniste. J'y ai trouvé après du sens dans le choix que j'ai fait de passer, on va dire, à une autre vie professionnelle, puisqu'aujourd'hui, je suis en train de reprendre une petite entreprise de bâtiment que j'oriente vers la construction modulaire, c'est-à-dire la transformation de conteneurs maritimes. Et pour moi, c'est donner du sens, un autre sens à ma vie, parce que ça concerne d'un côté toutes les problématiques liées à l'écologie, le recyclage, la construction durable, etc. Et puis ça a du sens aussi parce que pour moi, ça concerne tous les métiers d'avenir. C'est-à-dire que c'est la construction modulaire, ça sera la norme dans une quinzaine d'années, par exemple, par rapport à l'industrie du bâtiment qu'on connaît aujourd'hui. On connaît aussi la problématique du bâtiment tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est que ça n'intéresse plus les jeunes, parce que ce sont des métiers pénibles. C'est tout naturel, ils ont envie d'autre chose. Donc tous ces nouveaux métiers, que ce soit la construction modulaire, que ce soit les nouvelles énergies, que ce soit la production, on va dire, l'agriculture urbaine et raisonnée ou bio, que ce soit l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est vraiment une voie, on va dire, importante pour donner du sens à sa vie et pas se retrouver dans la position de celui qui intègre un grand groupe et qu'aujourd'hui en souffre, parce que dans beaucoup de grands groupes, hein, c'est plus... on va dire, les années passent, et plus les grands groupes deviennent grands. Et ben, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver du sens à l'intérieur des grands groupes. Donc, tout ce qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire et autour des métiers de l'écologie, parce que là aussi, il ne s'agit pas de planter des arbres.
Hein, oui, parce que ça crée du métier.
Exactement, hein, exactement. Et dans une ville comme Marseille, qui souffre de beaucoup de maux.
Dans le chômage.
Dans le chômage, dans le manque de formation, tout un tas de problématiques liées à la précarité, liées à des milieux... sociaux, familiaux, parfois problématiques. Ben justement, trouver une voie qui donne du sens à sa vie, c'est très important. Et Marseille en a grand besoin.
Effectivement. Oui, Victor. Peut-être je vais compléter certaines choses qui manquent. Quand on a parlé de Bou Marseille, c'est une liste de rassemblement d'écologistes et de citoyens. On est dans les listes à peu près 95% qui est des citoyens. Deuxième chose, il faut bien dire que nous sommes tous, cette écologie s'est composée de toute l'écologie, Génération Écologie, Europe Écologie Les Verts, CAP 21, Urgence Écologique, Alliance Écologique Indépendante, Allons Enfants. Donc c'est tout un groupement des écologistes. Déjà, il faut dire ça, et nous sommes derrière Chaïdati Swahili. Pourquoi on est derrière elle? Parce que justement... Nous formons une nouvelle liste. Pourquoi? Parce qu'on a eu la chance de recomposer une liste avec quelqu'un qui vient, on va dire, clairement d'en bas, et qu'il y a toute une équipe autour d'elle, nous, moi-même, des experts, des urbanistes. Et c'est là la nouvelle politique, et ça veut dire que c'est quelqu'un du peuple, on veut dire, qui monte, qu'il est tête de liste, ce qui signifie que n'importe quel citoyen qui travaille peut arriver à haut. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques croient tout savoir. Et des fois, un citoyen qui connaît moins de choses, avec une équipe d'experts, il va avoir une définition différente de la politique. Et justement, tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu des problèmes concrets qu'il y a aujourd'hui dans les 15-16. Et qu'est-ce qu'on peut faire du concret pour les régler?
Ah, ça nous intéresse. Mais il y a quelques idées aussi de... Quelques idées, c'est les idées communes que vous avez citées pour l'éducation, par exemple.
Concernant l'éducation, les enfants sont scolarisés dans plusieurs établissements scolaires du 15e et du 16e arrondissement dans des conditions qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas appropriées à une bonne éducation, à un bon environnement, un environnement en tout cas propice à l'apprentissage et à l'épanouissement d'un enfant. Je parlais de là des par exemple, les écoles sans chauffage l'hiver, voilà, ou encore du manque de personnel. On peut avoir des écoles avec un personnel pour 30-40 enfants. Donc comment voulez-vous que la personne qui est chargée de s'occuper des enfants le fasse efficacement? C'est pas possible.
Oui, là, voilà. Vraiment pour améliorer le milieu, quoi. Vraiment des problèmes de base, de précarité.
C'est des dispositifs qu'il manque. Des dispositifs qu'il manque, et malheureusement, ces dispositifs sont indispensables.
Peut-être pour l'éducation aussi, je dirais que nous avons fait avec tout un groupe de jeunes, à peu près une dizaine de personnes, nous avons sensibilisé presque 500 000 d'enfants qui pour la pollution de l'air. Ça, on pourrait le faire sur les déchets. Ça, on pourrait le faire pour toutes les problématiques d'espace naturel, le parc national des Calanques. Donc, dans toutes les problématiques, si on met l'éducation comme priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, qu'est-ce qui va passer? On travaille sur les durables, on travaille sur les changements, parce que les enfants d'aujourd'hui, ça va être le ministre de demain. Donc, je pense qu'un enfant sensibilisé, quand je dis enfant, ça peut être école, collège et lycée. C'est ce qu'on fait actuellement. Et nous, si on se mêle de la politique, on peut dire en tant qu'électron libre, en tant que société civile, si on se mêle de la politique parce qu'on pense qu'on peut faire des choses bien, beaucoup de gens ils parlent d'écologie, ils disent nous allons faire l'écologie, ils ne l'ont jamais fait. Moi, personnellement, je l'ai fait depuis 40 ans, la preuve, c'est ces missions, je l'ai fait depuis avec la
Pôle. Tu as commencé par l'écologie et ensuite, pour avoir un mouvement plus fort, tu es passé par la
politique. Et c'est ça qu'on essaye d'aller. Et qu'on manque les gens, qu'on manque les jeunes, qu'on manque... Tout à l'heure, tu parlais des jeunes.
Après, chacun son histoire, hein, oui. Parce que Stéphane, ça va être plus grâce à des associations que tu es rentré dans le mouvement. L'écologie, ça n'a pas été le premier moyen. C'est l'urbanisme qui t'a fait réaliser l'écologie.
Alors, disons que j'ai jamais été militant au sens propre du terme. Mais évidemment que ce sont des questions que je porte en moi. Mmh. Ou en tout cas, c'est une problématique que je porte en moi. Déjà d'une, à travers l'exercice de la profession d'architecte urbaniste, quand j'exerçais cette profession-là. Je suis aussi père de famille, j'ai un petit garçon, bon, plus aussi petit que ça parce qu'il va faire bientôt 15 ans, mais qui, lui, se pose tout un tas de questions et est beaucoup plus au fait des choses que moi, pratiquement. Hein. Quand on est père de famille ou quand on souhaite fonder un foyer, forcément, ces problématiques-là, on y est confronté tous les jours. Quand on voit les conséquences du dérèglement climatique, quand on voit toutes les problématiques liées à l'alimentation, que ce soit, on va dire, l'élevage ou la culture intensive, l'élevage intensif, etc., et tous les dégâts que ça produit sur la population, ben on peut pas à un moment donné, on peut pas y rester on va dire sans avis sur le sujet et sans se poser un minimum de questions.
Mais nous on n'a pas d'industrie chez nous alimentaire. Ça serait juste pour la cantine ne pas s'approvisionner chez eux.
Déjà dans un premier temps et c'est on parlait d'éducation mais effectivement un enfant on sait qu'un enfant il se forme. Il forme sa personnalité et puis tout son bagage qui va lui permettre par la suite d'évoluer, peut-être que les 7 premières années de sa vie. Donc, et à Marseille, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est loin de pouvoir donner à un enfant les 7 premières années de sa vie le meilleur des contextes ou les meilleurs des outils pour réussir. C'est à savoir aller dans une école on va dire, digne de ce nom. Parce qu'on parlait, on évoquait tout à l'heure les problématiques de chauffage, mais en fait, c'est la vétusté des équipements. Moi, j'ai eu l'occasion de concevoir beaucoup d'écoles, notamment en région parisienne et à l'étranger. On va dire qu'il y a une autre conscience quand même de la problématique. Voilà, une belle école avec de la végétation qui donne envie aux gamins d'aller à l'école. Ça passe par l'alimentation le midi à la cantine, avec de l'alimentation avec des produits issus de circuits courts. Ce qui va permettre de dynamiser, on va dire, une agriculture urbaine bio ou raisonnée. Dieu sait que dans le 15-16, là aussi, il y a énormément, on va dire, de réserves foncières d'anciennes propriétés agricoles.
Oui, il y a du
Donc
terrain.
On a tout sur place.
Il y a la possibilité.
Marseille, c'est 3 fois Paris, avec 4 fois moins d'habitants. Donc la réserve foncière, on l'a pour organiser, on va dire, l'approvisionnement du système de restauration scolaire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Puis ça génère des emplois. Là aussi, porteur de sens. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux, en fait.
Peut-être que je me permets d'ajouter quelque chose. On n'a pas d'industrie, mais par exemple en Suisse, toute l'autosuffisance alimentaire, c'est capital. Ça veut dire que si on essaie de freiner la pression foncière, déjà pour tous ces terrains, oui, on peut à terme avoir une partie de nos fruits et légumes qui viennent de la Provence. Mais si on continue à mettre l'urbanisme comme ça, bétonnage, 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 on ne pourra plus, ça va coûter de plus en plus cher, on ne sera pas dans l'écologie. Il y a plein d'écoles qui aujourd'hui se mettent dans des cantines bio ou des cantines végétariennes pour habituer nos enfants à changer. Et comme ça, il y a moins d'obésité, donc on voit tous les bienfaits de faire une politique écologique. Et c'est vrai que si on est là aujourd'hui, on est là pour dire aux citoyens que c'est vrai que c'est différent, une liste écologique, vraiment, qui vient de loin. Il y a le problème de l'extrême droite, évidemment. Il y a des gens qui disent que l'écologie va diviser. Non, non, non. Aujourd'hui, pour nous, premier tour, c'est quelque chose. Il faut que les citoyens comprennent que premier tour, c'est une chose. Deuxième tour, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour faire barrage à l'extrême droite. Nous, c'est clair. Maintenant, l'écologie, tout le monde doit se mettre en marche. Tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'écologie s'il y a un seul groupe qui le fait. Il faut que ce soit un plan Marshall pour sauver le climat, qui ça quand même, ça, c'est dangereux. Et aussi un plan Marshall parce que Marseille, si se met à l'écologie, il y a tout à gagner, il y a tout à faire. Et aussi, il faudra qu'on règle le problème de l'inégalité qu'il y a entre les quartiers sud et les quartiers nord. Ça veut dire qu'il y a des bruits, il y a des déchets, il y a une façon de traiter la ville différemment. Et donc aujourd'hui, on doit avoir une ville qui doit être équitable.
Gros projet. Ah, quelque chose à rajouter ?
Oui, okay. Je souhaiterais ajouter à ce récit que l'écologie, ce n'est pas un combat partisan, un combat politique. C'est avant tout un combat humain, un combat citoyen, un combat humain. Pourquoi ? Parce que qu'on soit issu d'un milieu aisé ou d'un milieu pauvre, ça nous concerne. La pollution, elle touche tout le monde. Elle ne touche pas que les personnes pauvres, d'accord ? On vit tous à Marseille. Peu importe comment on est, peu importe qui on est. Je dis que c'est un combat humain avant tout aussi parce que ça prend en compte la question de la santé. Voilà. Donc ça ne fait pas de distinction entre un parti ou un autre, entre une catégorie de personnes ou une autre.
Pour compléter, moi je dirais que, en fait, Debout Marseille, le projet que ce mouvement porte, en fait, il nous rassemble. Au-delà de nos appartenances politiques, religieuses, et surtout au-delà de nos origines sociales, en fait. Et c'est vraiment un projet qui nous unit et qui nous rassemble autour des valeurs de l'écologie et de l'engagement citoyen. Donc il y a l'écologie et il y a la place de l'homme au milieu de tout ça. Tout à l'heure, on évoquait l'économie, par exemple, il faut savoir que dans le 15 et 16, M arrondissement, c'est quand même les quartiers dans lesquels on produit 90% de la richesse à Marseille.
Oui, ce sont les secteurs. Ça ne produit pas tant. Il y a peu d'employés de l'arrondissement.
Toutes les richesses, elles sont produites à cet endroit-là, mais elles ne profitent pas à ceux qui y habitent.
Ils avaient vu ça justement de les mettre dans ces quartiers-là, bon, pour le port. Mais aussi pour améliorer le quartier.
On est sur des logiques du 19e siècle, alors qu'on est au 21e quand même. Mmh. Et on pourrait dire ça de tout Marseille. Quel que soit le sujet qu'on aborde, à Marseille, on est encore au 19e siècle.
Peut-être pour ajouter ce que tu dis, au niveau des quartiers, on voit très bien qu'aujourd'hui, au niveau national, dans tes émissions, tu as pu le voir, qu'aujourd'hui, la transition écologique, il va faire normalement 1 million d'emplois. À Marseille, il peut y avoir des milliers d'emplois.
Bien sûr.
Et les jeunes qui sont en chômage, justement, dans les quartiers difficiles ou des quartiers, on va dire, pauvres, et on voit très bien qu'il y a une possibilité, si on met déjà un travail sur tout ce qui est l'isolation thermique, par exemple, panneaux solaires. Si on fait tout ça, il peut y avoir de l'emploi et en même temps, on peut avoir des progrès. Et tout à l'heure, peut-être j'aimerais qu'on parle des problèmes ponctuels des cancers, comme le bruit, la pollution de l'air, les problèmes des espaces naturels. Il y a aussi le problème de la concertation qui est mal faite. Vous savez qu'on ne consulte pas trop les citoyens. Et parler un petit peu de tout, même comment protéger l'étoile, par exemple, le massif de l'étoile, les Garlaban, qui pourrait être un corridor écologique qui va des Calanques jusqu'au quartier nord. Mmh. Donc, on aurait une autre façon de voir la ville. Et c'est, ça, peut-être, tout à l'heure, on pourra parler un petit peu plus en détail. Problème, solution. Parce que beaucoup de gens critiquent, mais il y a des solutions.
Bien sûr.
Pour vous donner juste un exemple. Juste un exemple. Pour les gilets jaunes, il fallait 8 milliards pour régler le problème. Ça, pour régler, pour essayer de régler le problème, ils ont trouvé 8 milliards. Je vous donne un chiffre. La pollution de l'air, chaque année, coûte en France plus de 100 milliards d'euros. Et on s'est rendu compte, selon le rapport du Sénat, de droite, je ne parle pas de la gauche, de droite, ils ont dit qu'on pouvait diviser par 12 cette chiffre si on faisait une bonne politique. Donc, ce qui signifie qu'on pourrait prendre 90 milliards de la pollution de l'air et la mettre justement dans tout ce qui est l'emploi, dans tout ce qui est des pollutions des sites pollués. On parlait du chrome, on parlait des sites qui sont pollués à Marseille, qui sont inconcevables, arranger les écoles.
Port, hein.
Eh oui. Les ports, d'ailleurs, ils nous voient beaucoup de pollution des bateaux. Mm-hmm. Donc c'est le cancer aussi qui subit ça.
Bien sûr. Pour revenir sur l'économie, parce que tu m'as coupé un peu l'herbe sous le pied, en fait, mais je te rejoins dans tout ce que tu évoquais, c'est que voilà, l'écologie, c'est aussi la transition énergétique, c'est tous les nouveaux métiers liés aux énergies renouvelables, à toutes les nouvelles technologies, c'est, j'en reviens sur le sujet, mais c'est tout ce qui est lié à l'économie sociale et solidaire, que ça soit l'agriculture, que ça soit... tout un tas d'activités pour le bien-être de la personne, que ça soit au niveau du commerce alternatif. Il y a des millions de pistes, en fait, et qui pourraient permettre à tous ces jeunes de trouver leur voie. Voilà. On a des grandes industries à proximité de Marseille. On a par exemple Airbus à Marignane. Qui là aussi, en termes de, on va dire, de mise en avant de nouvelles technologies, c'est quand même, on est quand même un des plus grands groupes mondiaux.
Bien sûr, c'est une très belle
il y a des passerelles à créer aussi avec les jeunes de nos quartiers. Alors j'aime pas dire les jeunes de nos quartiers parce que c'est nos jeunes tout court. Mm-hmm. Dire, que ça soit dans le 15-16 ou dans le 1-7 ou dans le 4-5, je dirais la problématique est la même. Sauf qu'il faut leur donner la possibilité à tous ces jeunes-là de toucher du doigt toutes ces possibilités. Voilà, on entend trop souvent parler à Marseille de règlement de compte et d'histoire sordide, plutôt que de tous les pôles d'excellence qu'on a à Marseille,
oui.
De tous les talents qui sont issus de Marseille, que ce soit des quartiers défavorisés
et
comme ça.
Des belles réussites aussi,
évidemment,
pour
évidemment.
Donner envie.
Seul qu'on ne les met jamais en avant. Et là aussi, quand on fait la liste des réussites dans les quartiers, on est impressionné de constater le nombre de réussites. Mais ceux-là, on ne les entend jamais parler. Voilà, parce que forcément, le crime, la délinquance, la saleté, ça fait meilleure presse. Voilà.
Et toi, Kimia, des quartiers, Que demandent les jeunes à l'heure actuelle? Est-ce que tu entends un cri particulier?
Évidemment, oui.
Est-ce qu'ils t'en ont parlé vu que
t'es
plus près?
Je vais en profiter pour raconter rapidement mon parcours, sinon ça
oui,
va pas
sûr,
très, très pertinent ce que je vais dire par la suite. J'ai grandi à La Castella, donc je ne sais pas s'il y a parmi les gens qui m'écoutent, il y en a qui sont à La Castella, donc qui ont grandi. La Castellane, voilà, c'est un quartier très défavorisé, mais ce n'est pas pour autant que les jeunes n'ont pas de volonté ou ne rêvent pas ou n'ont pas envie. Bien au contraire. Souvent, ils ont envie de faire bouger les choses au niveau local, mais ils ne savent pas comment faire parce que soit ils ne sont pas assez accompagnés, soit on leur a trop répété que... je vais le dire, qu'ils ne servent à rien, qu'ils sont capables de rien faire.
C'est
voilà.
Ça.
et on ne voit pas tout ça, en fait. On voit plutôt le côté négatif de la jeunesse, mais c'est une jeunesse que je côtoie, même toujours. Hein, là, je rentre chez moi, je retourne dans mon quartier.
À 20 ans, je pense qu'on est encore jeune.
Voilà. Il n'y a que ce côté-là qu'on voit, mais je peux vous garantir que dans les quartiers, il y a des jeunes qui ont des talents artistiques. Il y en a beaucoup à la Castellane. Des jeunes qui font des études supérieures, j'en connais beaucoup, qui ont réussi la PACES, qui ont réussi des études d'ingénieur. Il y en a dans les quartiers, et c'est vrai que je regrette qu'on n'en parle pas.
Des doctorants, des ingénieurs.
Il y en a, évidemment. Ça peut être compliqué à croire pour certaines personnes qui... voilà.
Oui, mais en fait, il faut se regrouper pour montrer l'exemple, hein, qu'il y a possibilité.
Il y a possibilité.
De sac.
Mais comme j'essaye de le dire, le plus grand souci aussi, c'est que c'est les mesures. C'est les mesures qui sont prises envers les jeunes. Ce sont des mesures, je pense, peut-être que c'est un manque d'études des institutions. Les institutions, peut-être, ne connaissent pas vraiment la situation des jeunes, je ne sais pas, mais c'est toujours des mesures qui sont insuffisantes. Voilà, c'est mon ressenti. C'est toujours des mesures qui soit sont inexistantes, soit sont insuffisantes. Et comme ça, on ne pourra pas nous aider.
Il y a quoi comme mesures qui t'ont marqué et c'était dans le vent ?
Moi, c'est par rapport à... Parce que je vais dans une... Dans le carburateur. Le carburateur, c'est une association qui aide les jeunes dans l'entrepreneuriat. Je me rends compte que c'est dans les quartiers nord, hein. C'est dans les quartiers nord, pas forcément dans ma cité, mais pas loin. Et je me rends compte que beaucoup de jeunes ne connaissent pas le carburateur. Or, ils veulent ouvrir leur entreprise. Et ça, c'est pas normal. Voilà, on doit les orienter vers ce genre de structure.
On communique pas assez sur l'accompagnement, en fait. Il faudrait qu'il y ait une vraie politique, là aussi, à Marseille, d'accompagnement des jeunes.
Finalement,
il y a
beaucoup d'accompagnement, mais c'est en fait les connaître.
Voilà. Mais en tout cas, une structure qui permette de faire connaître aux jeunes ces possibilités-là. Et puis d'organiser aussi, la sensibilisation sur le fait que c'est possible. Parce que souvent, quand on est issu de ces quartiers, on s'auto-censure. C'est-à-dire qu'on se dit que la réussite, ce n'est pas pour nous.
Ouais, ce que tu disais à Kimia, pour toi. Moi-même, c'est incroyable qu'on te donne ta chance.
Qu'on fasse confiance,
sur la liste,
c'est ça, oui. Ouais,
bon, déjà, à 20 ans, peu importe quel milieu, je pense que ça, c'est incroyable. Et après, dans certains milieux, c'est encore une prouesse.
Moi, je ne suis pas égoïste de nature, donc je souhaiterais que cette chance-là qu'on m'a donnée, qu'elle soit donnée à tous les jeunes. De mon quartier, même d'ailleurs, hein, mais surtout de mon quartier, parce qu'ils sont toujours laissés de côté alors qu'ils en valent la peine. Et je le dis vraiment du fond du cœur. Voilà.
Et c'est une fois de plus, si je peux rajouter quelque chose, c'est tout, toute la richesse de la liste de Debout Marseille pour le 15-16. Moi, le premier, j'ai été vraiment scotché, déjà d'une par le niveau de conscience de tous mes colissiers. Alors ça va de 20 à une cinquantaine d'années. Le niveau de conscience déjà, et le niveau d'études, parce qu'on a, en l'occurrence, on a une doctorante et une championne du monde en kickboxing. Il fallait quand même...
C'est Sarah. Sarah,
voilà, Sarah. Et d'autres profils. On a avec nous Sofiane, qui est éducateur. Mais lui aussi qui a une culture du théâtre, de la littérature, etc. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué pour l'instant, au-delà de la qualité du programme qui est proposé par Debout Marseille, c'est le niveau de conscience de ce programme-là par rapport à tout ce que j'ai pu voir, lire et écouter par ailleurs, concernant, on va dire, pas nos concurrents, mais ceux d'en face. Et ça, ça donne vraiment envie de se battre. Et surtout quand on se rend compte que voilà, ben, tous les parcours qu'on a eus, chacun à un niveau différent, ben, on se retrouve aujourd'hui sur cette liste, et c'est le cas de la majorité des listes sur toute la ville. Hein. Il y a énormément de gens issus de la société civile, de tous les milieux, et je trouve que c'est d'une richesse incroyable. Et moi, c'est vraiment ce qui me donne envie de me battre. En particulier sur le 15-16, même si je le dis encore une fois, c'est pas ce qui me définit, mais moi j'ai été étudiant dans le 14e, j'étais au lycée Diderot, j'ai passé une petite période de ma vie dans le 15e arrondissement. Bon, aujourd'hui, mes parents vivent en banlieue, en proche banlieue, on va dire. mais bon, voilà, c'est pas ce qui me définit. Et je suis, voilà, encore une fois, je le dis, parce que je n'arrête pas de me bluffer moi-même par rapport à tout ça, c'est que je suis vraiment extrêmement touché par la richesse et la qualité de tous les gens qui m'entourent.
Ben merci, j'espère que ça a donné envie à tout le monde, et on va redécrire ça encore mieux après la pause musicale pour faire redonner envie au quartier Nord et surtout à tout Marseille de voter, parce que c'est la semaine prochaine. Donc petite pause musicale et à tout de suite.
On s'est fait une photo.
T'as l'air ça. Caro linda, maravilha de mulher. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Anda bonita e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Carolina, eu preciso de você. Carolina, eu não vou suportar que te ver. Carolina, eu preciso te falar. Carolina, eu vou amar você. Segunda a segunda, fico louco pra te ver. Quando eu te ligo, você quase nunca está. Era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo, então melhor deixa pra lá. Princípio do domingo, o que você quer fazer? Faço um pedido que eu irei realizar. Olha aí, amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina Carolina de Abala. Oi, Carolina, eu preciso de você. Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, Carolina. Carolina, eu preciso parar. Carolina, eu vou amar. Eu vou amar você, Carol. Carolina. Carolina, Carolina, preciso te encontrar. Carolina, preciso do sol. Carolina, preciso te dizer. Oh, Carolina, só quero amar você. Carolina, preciso te encontrar. Carolina, me sinto muito só. Carolina, preciso te dizer. Oh, Carolina, só quero amar você. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Anda bonito e um brilho no olhar. Jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. É maravilha feminina, é meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Confesso que estou apaixonado por você, Carol, meu Deus. Essa mina é sensacional. Oh, Carolina, eu preciso de você. Carolina, eu não vou suportar não te ver. Geral, festa pra Carol. Geral, galera, vamos. Ô oh, Carolina, eu preciso te falar. Carolina, eu vou amar você. Eu vou amar você. Eu vou te dar muito carinho. Vou te dar beijinho no cangote. Carolina, menina bela. Menina bela. Não. Carolina, eu preciso te encontrar. Carolina, me sinto muito só. Carolina, preciso te dizer. Oh, Carolina, só quero amar você. Carolina, preciso te encontrar. Carolina, me sinto muito só. Carolina, preciso te dizer. Oh, Carolina, só quero amar você. Oh, Carolina, preciso te encontrar. Carolina, me sinto muito só. Carolina, preciso te dizer. Oh, Carolina, só quero amar você. Carol, 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 Carol,
tous, vous êtes de nouveau sur Écoforum après une petite pause musicale. Excusez-moi, une pub pour de la bonne musique, effectivement. Hein. Donc à écouter sans modération. Nous sommes encore avec Stéphane et Akimia, représentants de la liste Debout Marseille du 15 et 16e, qui représente Chaïdati Soili. Et on est là, tous ensemble, pour prouver que la politique sert à quelque chose. Et surtout la municipalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, dans un ton global, parce qu'on est tellement dans un moment morose de la politique, plus aucun jeune ne croit en la politique, plus personne pense que ça sert à quelque chose de voter. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, déjà? Un constat.
Moi, j'en pense une chose, et une seule, c'est qu'il faut rappeler que les élections municipales, c'est quand même le seul moment où, on va dire, on va voter pour notre avenir au quotidien. C'est-à-dire que c'est au niveau de notre rue, au niveau de notre quartier, et bien sûr au niveau de notre ville. Donc, aller voter le 15 mars, c'est voter pour quelque chose de concret, c'est pour notre quotidien de demain. Donc, autant ne pas laisser les autres décider à notre place, en ne pas allant voter, ou en tout cas, c'est aller voter pour ce en quoi on croit. Alors, effectivement, aujourd'hui, on ne croit plus en grand-chose. Mais je reviens encore sur ce magnifique projet porté par Debout Marseille et Chaïdati Soili, qui est notre tête de liste. C'est un projet qui nous unit et nous rassemble au-delà de nos appartenances politiques, religieuses et de nos origines sociales. Je veux dire, les valeurs de l'écologie et de l'engagement citoyen, ça dépasse toutes les appartenances. Donc c'est ce beau projet-là qu'on porte. Et qu'on portera toujours plus haut jusqu'au jour des élections. Et on espère que on va semer chez tous les gens qu'on croise cette envie de voter pour un projet pour une ville et une vie meilleure.
Oui, c'est vraiment un projet écologique et citoyen. Et Akimia disait humaniste, en fait, finalement.
Évidemment.
Finalement,
c'est la définition.
Ça concerne tout le monde. C'est... Oui.
Humaniste et progressiste, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la notion d'humanité et la notion de progrès. Tout le monde sait que quand on parle de progrès à Marseille, on part de loin. J'étais gentil tout à l'heure en évoquant le 19e siècle pour on va dire, caricaturer un peu l'état de la ville, mais on est au Moyen-Âge.
Peut-être je vais... La question que tu as posée, c'est très important. Pourquoi voter? Je dirais plutôt pourquoi pas voter. Les gens qui disent « je ne vais pas voter ». Quand vous ne votez pas, vous êtes exclu. Vous vous excluez vous-même. Quand vous votez, vous faites très mal aux politiques qui, justement, qui ne voulaient plus. Donc, j'ai dit, pourquoi il faut voter? Pour voter, pour dire, j'existe. Donc, avec mon pouvoir de vote, je peux changer les choses. Bien que souvent, tout le monde fait des promesses qui ne vont pas tenir après. C'est pour ça que j'ai fait une différence entre ce qu'il faut, la politique, au fond de l'écologie, tout le temps, pendant et après, c'est un passage. Mais il y a certains qui deviennent les plus écolos de la Terre pendant les élections municipales. Et bien souvent, les citoyens nous disent, on a marre, ils viennent nous dire bonjour, bonjour, et après, ils oublient tout ce qu'ils ont dit. Presque, on devait faire un observatoire des mensonges politiques, et dès que quelqu'un ment, lui dire clairement qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas continuer à faire des promesses qui ne tiennent plus les gens.
Ah, c'est dans longtemps. On peut faire de la prison et être en politique, donc le mensonge, prochaine étape.
C'est vrai.
Oui, je souhaiterais dire par rapport au vote, le taux d'abstention dans notre arrondissement, il est assez important. Et je souhaiterais faire passer un message à ceux qui ne votent pas et qui sont du secteur.
C'est très bien parce qu'on est écouté par les quartiers nord. Hein. Faut en profiter là.
Voilà, j'en profite. C'est une responsabilité qu'on a aujourd'hui. Le fait de se dire... moi, je suis des leurs. Hein, donc, je ne pointe pas du doigt qui que ce soit. Je suis des leurs. Si je parle d'eux, je parle de moi aussi. Mais le fait de se dire je ne vote pas parce que j'ai plus confiance, parce que c'est toujours la même, etc. C'est tout sauf une façon de se battre. Le vote, c'est un acte militant. Le vote, c'est un acte... C'est un acte responsable. Et dans l'urgence, vu l'urgence dans laquelle on est... On doit tous, le 15 et le 22 mars, voter. Ne serait-ce que voter, voilà, voter pour Debout Marseille, parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est le programme qu'il nous faut pour nos quartiers. Mais aussi, ne serait-ce que voter et montrer, voilà, que les quartiers se révoltent, que les quartiers en ont vraiment marre de toutes ces situations-là, et qu'on prend des initiatives, prouver que, voilà, que la situation, elle est vraiment urgente, elle est vraiment importante. Les jeunes aussi, les jeunes ne votent pas, je ne sais pas pourquoi, je sais que beaucoup de jeunes ne votent pas plus que d'adultes. Et pareil, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous les jeunes, c'est nous, demain c'est nous en fait. Ce n'est pas nos parents, ce n'est pas notre âme, c'est nous. Parce que aujourd'hui j'ai 20 ans, mais je construis mon avenir. Et en construisant mon avenir, je construis celui de mes semblables aussi. Voilà, donc il faut... Vraiment, j'utilise le mot responsabilité. C'est une responsabilité, il faut vraiment le faire. Je ne vais pas obliger les jeunes à le faire, d'accord ? Mais je tiens à vous dire que vous pourrez le regretter si vous ne le faites pas.
Bravo.
Moi, je crois que
à 20 ans. Très beau message.
Ça fait 25 ans que tout le monde le regrette, finalement, parce qu'on se rend compte que les politiques qui sont au pouvoir, ils sont élus par une très petite minorité de citoyens, en fait, qui, eux, sont mobilisés, ils le savent pourquoi. C'est-à-dire qu'on est quand même à Marseille, plus que partout ailleurs, dans une logique de clientélisme. C'est-à-dire, vote pour moi, je vais te filer un appartement, vote pour moi, je vais te glisser un billet de 20 euros dans la poche, vote pour moi, je vais te trouver un job à la mairie. Et en fait, je pense qu'on est responsable aussi de la médiocrité des politiques qu'on a depuis peut-être 60 ans, parce qu'on s'est laissé avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de prendre son destin en main. Et en fait, un logement, un boulot, c'est un droit pour tout le monde. Il n'y a pas à privilégier un plutôt qu'un autre. Et c'est tout ce qui a été fait jusqu'à présent, et c'est tout ce contre quoi on se bat. Et ce qui est important de dire, c'est que ne pas aller voter, c'est laisser la place à tout cela aussi. Voilà, à ceux qui se mobilisent, mais qui savent pourquoi ils se mobilisent, parce qu'ils auront un retour en échange. Donc, s'il doit y avoir une révolte des quartiers, moi, j'ai aucun problème avec ça, à partir du moment où c'est une révolte pacifique et qu'elle passe par les urnes.
Ouais.
Parce que
oui, il peut y avoir un résultat.
Ça ne passera pas par autre chose que par les urnes.
Surtout cette année, il y a obligatoirement changement.
Mais évidemment.
Cette année, on peut vraiment sentir que son vote est utile par rapport à d'autres années où
on se rend compte que
c'était toujours la même chose.
Bien résultat. Sûr, bien sûr. Alors il y avait pour certains un boulevard avec la fin de l'ère Gaudin. On se rend compte qu'au final, l'ère Gaudin, elle sera prolongée par sa candidate naturelle. Que de l'autre côté, il y a la menace, évidemment, du Rassemblement national. Mais tous ceux qui, on va dire, spéculent sur le Front national pour faire des alliances contre nature ou pour continuer à mentir à la population, je trouve ça plutôt minable. Alors qu'il suffisait qu'on porte haut et fort, surtout les valeurs citoyennes. Voilà.
Donc on a déjà parlé, donc on a beaucoup parlé de l'éducation en première partie. Maintenant, parler de la santé, parce que c'est un des deuxièmes points forts pour vous.
C'est
comment
lié.
L'améliorer
c'est
parce
lié.
Que dans les quartiers, il y a beaucoup de... La santé s'est dégradée, les cabinets partent. Qu'est-ce que vous voulez faire pour améliorer ça?
Alors, pour répondre à ce désert médical-là, moi, pour l'instant, ce que je constate, c'est qu'on a de plus en plus de médecins qui partent. Et parallèlement, on a de plus en plus de personnes qui ont besoin de médecins à proximité. Je pense aux personnes âgées. C'est inenvisageable pour une personne âgée qui, souvent, sont seules, d'aller voir son médecin qui, avant, était au bas de sa porte. À 5 km ou à 1 km de chez elle. De toute façon, c'est pas possible. Concernant la santé dans les quartiers, on a quand même des pharmacies, il y a des cabinets médicaux, mais la proximité, c'est important. Ça crée aussi un échange entre les habitants et les personnels. Mais, ça
c'est que la sécurité soit revenue, en fait. Ça sera
un
cercle vertueux, là.
Pour finir la partie santé, parce que vous parlez de santé dans laquelle on va se soigner, mais avant de se soigner, il faut trouver les causes pourquoi les gens sont malades. Et quand on voit pourquoi les gens sont malades, c'est vrai que dans les quartiers nord, quand on a tous les problèmes de bruit, le bruit, c'est des problèmes de santé, des gros problèmes de santé. Quand on voit les problèmes de bruit, parce qu'il y a deux autoroutes qui passent, on a des transports qui vont beaucoup, beaucoup de pollution, donc il va y avoir beaucoup de pollution parce qu'il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro dans cette zone-là. J'aurais fait un tramway jusqu'à, justement jusqu'à l'Estac. Donc quand on voit ça, on voit qu'il y a plus de pollution. Quand on voit les bateaux qui sont juste à côté et ils voient la fumée à tous ces quartiers quand c'est 16, évidemment, il y a encore une cause supplémentaire d'une pollution chronique et aussi d'une pollution immédiate, parce que selon les types de pollution, les gens vont à l'hôpital rapidement pour ce type de choses. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, quand je vais dans les écoles, par exemple, dans ces quartiers-là, je me rends compte qu'avant, c'était une personne dans toute une école, ça fait 20 ans, allergique ou asthmatique, et maintenant c'est 1 sur 3, et dans ces quartiers encore plus. Ce n'est pas seulement le problème du chômage qui est très important. Donc vous voyez très bien, quand vous mélangez tout ça, plus la santé psychologique, le mal-être dans la santé psychologique, de voir qu'il y a des sites pollués qui sont à côté de ces écoles,
et tout ça. Et comment faire pour le port, par exemple?
Comment faire pour le port? C'est simple. Aujourd'hui, c'est simple. Quand je dis simple, ça veut dire que c'est une volonté politique d'exiger que les bateaux qui sont là et qui sont accrochés, ils soient avec une prise électrique qui vont se raccorder, et comme ça, pendant tout le temps qu'ils sont là, et à quai, ils ne vont plus polluer parce qu'ils vont payer. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne veulent pas payer. Le fuel qui est pourri les coûte moins cher que se brancher à la prise électrique. Aujourd'hui, la région est en train de faire des solutions qui sont positives, sont fortes. Il est en train de mettre de l'argent, je crois que c'est 30 millions qu'a mis, pour essayer de mettre une prise pour que les bateaux qui arrivent ils puissent se connecter à la prise. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces bateaux sont en plein centre-ville aussi. Donc toute cette pollution coûte de l'argent. Donc, quand on parle de santé, je dirais plutôt, à part d'avoir accès à la santé, parce qu'on est en France, j'écoutais aux États-Unis que quelqu'un, pour aller voir s'il avait la grippe, qu'on a la grippe chinoise, on va dire comme ça, ça l'a coûté 3 000 euros une consultation. En France, quand même, on a la sécurité sociale, qu'il faut dire que c'est une bonne chose, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit... on n'est pas tous égaux quand on a un salaire qui est mieux que les gens des quartiers très pauvres. Quand il y a confronté à l'amiante, une école, par exemple, ou un collège qui a l'amiante, évidemment, tu vas mourir avant les autres. Donc, on n'est pas tous égaux devant les pollutions, on n'est pas tous égaux devant la santé. Et c'est pour
donc
ça que
toucher sur les causes directement.
Voilà.
Améliorer le transport aussi, ça fait une partie de vos luttes.
Bien sûr. Le transport, déjà d'une, parce qu'aujourd'hui, deuxième ville de France, avec deux lignes de métro, et on va dire... un réseau, un maillage de lignes de bus plus ou moins, on va dire, ficelés, avec des bus qui mettent parfois une heure avant de passer, avec parfois des centaines de mètres à faire pour trouver un arrêt de bus. Quand on est obligé de prendre deux lignes, parce que moi ça m'est arrivé, je suis resté longtemps sans voiture à Marseille, en me déplaçant parfois dans le 15e, parfois dans le 8e ou dans le 9e, c'est un enfer.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est en gros, c'est 2-3 heures pour traverser la ville. C'est pas mieux quand on habite dans le centre. Hein. J'ai habité un certain temps au Catalan, et pour aller travailler au-dessus des réformés, le bus mettait 1h15 le matin.
C'est
pour vous donner un ordre d'idée. Quoi.
Si tu permets, toi qui étais urbaniste... Quel lien il y a entre l'urbanisme et la pollution de l'air? Évidemment, si toi, tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup des immeubles, par exemple, dans Calais-Longue, par exemple, ou dans les quartiers canceses, qu'est-ce qui va passer? Si tu mets 4 000 maisons, tu as multiplié par 4, tu as 10 000 voitures de plus. Si les rues sont les mêmes, il va y avoir d'embouteillages. Et dans l'embouteillage, tu pollues 10 fois plus que quand tu roules. Donc, tu vois très bien qu'un urbanisme mal fait, ça veut dire qu'on pousse... Belléo, la ville, évidemment, on pousse Belléo. Pourquoi? Et c'est pour ça que ça crée des congestions. C'est un problème majeur à Marseille, même dans les quartiers sud, et là je peux le dire, au 9, 10, 13, 14, c'est partout. Quand tu vas t'égarer dans les parkings périphériques pour ne pas polluer, tu ne trouves plus de place. Et quand tu te rends compte de tout ça, donc tout ça, il y a des solutions rapides à faire, des solutions concrètes à faire. Il faut investir, faire un plan Marshall pour chasser la voiture des centres-villes et garder les parkings qu'il y a actuellement pour les résidents.
Je voulais juste rajouter quelque chose sur les transports. C'est le résultat d'une réelle politique, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a voulu maintenir les habitants des quartiers à l'écart du centre-ville. Donc ça a été une véritable politique pendant très longtemps, d'avoir un métro qui s'arrêtait à 21h. Je veux dire, c'était surréaliste, hein. Moi, à l'époque où j'étais étudiant, 21h, plus de métro.
C'est 22h, ça n'a pas bien augmenté non plus. Hein.
Oui, voilà.
Oui, c'est bien
bon,
ça,
on a gagné 2 heures déjà.
Je suis en vélo à l'heure actuelle. Ouais. Mais
le week-end, c'est, il me semble que c'est minuit ou 1h du matin. Voilà, bon. Donc c'est le résultat quand même d'une vraie politique de ségrégation. C'est-à-dire que on avait la volonté de maintenir une partie de la population à l'écart, pour des tas de raisons. Et du coup, les transports publics ne se sont pas développés vers ces quartiers-là. Donc effectivement, c'est une priorité. Déjà la mobilité, c'est-à-dire donner la possibilité à quelqu'un qui habite à l'extrémité de Marseille d'être dans le centre-ville en l'espace de 3/4 d'heure. Voilà, ça me semble être le minimum syndical. Et puis des métros ouverts jusqu'à minuit, 2h du matin, pour permettre à toute la jeunesse et aux moins jeunes d'aller prendre un verre, manger un morceau dans le centre, assister à un concert ou à une pièce de théâtre. Ouais. Voilà, c'est ça aussi la vie, on va dire, normale.
Merci. On va en profiter des dernières minutes pour chacun dire votre envie la plus forte à travers ce mouvement. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'installer? Qu'est-ce qui vous porte le plus à cœur?
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait enfin des résultats. Il y a beaucoup de... Pendant les dernières municipales, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Et moi, je crois en Debout Marseille. Et je pense qu'avec cette liste-là, si on arrive à gagner, on va vraiment changer les choses. C'est tout ce que je demande, que ça change enfin et que les quartiers se transforment. Parce que... c'est, pour moi, je ne peux pas me dire que pour ma petite sœur, dans 5 ans, ça soit toujours pareil. Je sais que son avenir sera foutu.
Et quelle action pour toi la plus forte?
L'action pour moi la plus forte, ça serait d'agir, mais de partout, parce qu'il n'y a pas de priorité. Voilà.
Moi, pour moi, c'est avant tout, avec toute l'expérience qu'on a, beaucoup de colistiers dans la liste qui connaissent beaucoup de choses qui sont apprises, qu'on peut amener dans d'autres villes, vous savez, qu'elles partagent cette expérience et l'adapter à Marseille. Au lieu d'essayer de faire des choses qui ne marchent pas, peut-être copier à tous ceux qui font de bonnes choses, comme Strasbourg, Montpellier, ailleurs, au niveau solaire aussi. Donc, si pour moi, il y a une chose à faire, au lieu de chercher des solutions, les solutions sont toutes prêtes, mais les gens ne veulent pas les faire. On sait ce qui marche, mais ils ne veulent pas les faire. Donc, il faut commencer à les faire. Et même, peu importe qui va gagner, il faut que tous les Marseillais se mettent à travailler ensemble pour réussir.
Alors tu parlais des gens, c'est pas les gens, ce sont les politiques qui ne, qui ne font pas les choses.
Et les gens aussi.
Donc moi ce que j'espère c'est que, alors je veux pas être caricatural, mais s'il pouvait y avoir cette espèce de cohésion et d'union des Marseillais, comme pour un match de l'OM face au PSG, pour les municipales, s'il pouvait y avoir cette union-là lors des municipales, autour d'un projet porteur d'espoir, j'aimerais que ce soit à travers le programme qui est porté par Debout Marseille, parce qu'il le mérite vraiment.
Merci beaucoup d'être tous venus ce soir, d'avoir porté vos idées. J'espère que tous les auditeurs ont envie d'aller voter, comme d'aller voir un match de l'OM, voilà, le même engouement. Donc 14 mars et 27.
15
c'est le dimanche. Donc moins de personnes travaillent, mais c'est ouvert de quelle heure les bureaux de vote?
De 8h du matin jusqu'à 8h du soir.
De 8h à 8h.
Oui.
Donc on n'a pas d'excuses, on peut tous y aller.
Oui, on peut aller même fin de journée, cool, mais on vote.
Et donc c'est Debout Marseille, la seule et l'unique liste du Rassemblement écologiste et citoyen. Je
donc c'est facile.
Je tenais encore à le préciser. Debout Marseille.
Merci beaucoup, passez une excellente soirée et merci d'être venu sur le plateau. J'espère que les auditeurs ont bien compris le message. Une bonne soirée, merci d'avoir été là. Au revoir.